Écoute. Écoute.
Mon invité aujourd'hui, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonjour.
Bonjour Pascal Boniface.
Alors, on va donc faire un tour d'horizon des questions internationales, mais tout d'abord, peut-être un retour en arrière sur votre parcours. Vous avez fait des études en pharmacie, et comment expliquez-vous que vous avez fait ensuite une carrière politique ?
Je suis la fille d'un résistant gaulliste de la première heure qui avait une des premières cartes du RPF, la 8 ou la 9, je ne me rappelle plus, et nous ne parlions que politique à la maison. Alors bien sûr, il fallait avoir un diplôme, ma mère avait dit « la seule dot que vous aurez, c'est un diplôme ». Mais le fait de faire de la politique était consubstantiel à notre histoire familiale. J'ai donc voulu très tôt en faire. Je pense avoir fait ma première distribution de tracts, je devais avoir 6 ou 7 ans, adhérente aux jeunes gaullistes. Et tout ça s'est fait très naturellement. Simplement, quand j'ai voulu rentrer dans la carrière politique, j'étais déjà assez vieille, je devais avoir plus de 30 ans. C'est ça. Mon père m'a dit, il ne faut pas qu'on pense que tu es ma fille, que tu me dois quoi que ce soit. Donc tu vas choisir un canton imperdable pour devenir conseillère générale. Mitterrand avait fait 58% des voix. Il y avait un conseiller général bardé de notoriété et de légitimité que j'ai battu et j'ai pu ainsi entrer en politique malgré tous les caciques machistes du département.
Alors en 2012, vous avez mis un terme à votre carrière politique. Vous avez été parlementaire européenne, ministre de plusieurs domaines sur lesquels on reviendra. Et puis vous avez fait une entrée que l'on peut qualifier de fracassante dans le monde des médias. Est-ce que vous pensez que vous avez peut-être gagné en influence, que vous avez perdu en pouvoir ?
Je suis persuadé que la politique est consubstantielle de la vie et que certains me disent parfois « ça ne vous pèse pas d'avoir abandonné la politique ». Je leur réponds à chaque fois « mais je n'ai jamais abandonné la politique ». Je pense avoir tété la politique avec mes premiers biberons et même au sein de ma mère. Et comme disait Démosthène, celui qui ne s'occupe pas de politique ne s'occupe pas de ses propres affaires. Donc, je suis une citoyenne engagée. Je ne renonce à aucun de mes combats. Je les mène d'une façon différente. J'avais fixé de façon très claire le terme de ma carrière politique en disant que je ne mènerai plus de combat politique après 60 ans, ce que j'ai fait. J'ai obéi à cet engagement que j'avais pris. Et pour répondre à la phrase de Clémenceau, qu'aimait citer mon père, la politique, c'est comme un hamac, on a beaucoup de mal à grimper dedans. Quand on est dedans, on est ballotté de droite à gauche et en général, on se casse la gueule en en sortant. Et j'avais l'intention de ne pas me casser la gueule en descendant du hamac de la politique et de choisir la date et les modalités. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que j'avais l'intention de m'offrir une année sabbatique pour réaliser tout ce que j'avais pas fait, des voyages, des rencontres, des spectacles. Et puis, 3 semaines après, j'avais déjà 5 propositions, après mon départ du gouvernement, j'avais déjà 5 propositions diverses et variées de médias sur ma table et je n'ai eu qu'à choisir.
Alors, vous l'avez dit, votre enfance a été marquée par la résistance, votre adolescence par le gaullisme. Est-ce que vous pensez que les fondamentaux de la politique étrangère française qui ont été fixés en son temps par le général de Gaulle sont encore valides aujourd'hui ?
Certains éléments sont valides. L'idée que la France, malgré sa petite taille, est une grande puissance, qu'elle a une influence mondiale, qu'elle représente pour beaucoup de personnes dans le monde, sinon un idéal, du moins un paquet de références, ça reste valide. Par contre, le général de Gaulle, lui, il est l'enfant de la guerre, de son histoire personnelle. Il est l'enfant aussi, ou l'acteur plus exactement, de cette opposition en deux blocs, de la guerre froide, puis de tout ce qui va se passer après. De Gaulle, il voit pas l'effondrement du mur de Berlin. Donc, l'idée que l'histoire gaulliste se confond maintenant avec ce qui se passe dans le monde est évidemment irrecevable. Mais au niveau des valeurs, tout ce qu'il a édictée reste valable.
Alors pour certains, Mitterrand, après l'avoir combattu, et durement combattu lorsque Charles de Gaulle était au pouvoir, s'est inscrit dans ses pas, du moins en politique étrangère, au point que l'on ait qualifié le concept de gaullo-mitterrandisme. Est-ce que vous réfutez ce concept en disant « il y a de Gaulle et il y a le reste » ou est-ce que cette notion de gaullo-mitterrandisme, Mitterrand poursuivant et à sa manière la politique menée par le général de Gaulle, vous paraît un concept qui a sa pertinence ?
Ce concept garde sa pertinence, d'autant plus que Mitterrand est lui aussi le fils de la guerre et de l'après-guerre, et que sa lecture du monde, elle est profondément semblable à celle du général de Gaulle, et que cette lecture du monde va à la fois, après avoir combattu le général de Gaulle, l'amener à d'abord non seulement accepter, mais utiliser les institutions de la Ve République à son propre profit, et bien entendu avoir la même lecture des relations internationales que le général de Gaulle. Et d'une certaine façon aussi, on ne peut pas l'imputer au général de Gaulle, mort avant la redistribution des cartes liées à la chute du bloc soviétique, mais on voit bien que Mitterrand a eu du mal aussi à anticiper, à comprendre ce qui était en train de se passer en Europe de l'Est. La chute du mur de Berlin le prend complètement abruptement. Et il a du mal à ce moment-là à se situer dans cette nouvelle donne. Donc on peut parler de gaullo-mitterrandisme. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, sauf peut-être une amitié pour Israël de la part de Mitterrand qu'on ne retrouve pas chez de Gaulle. C'est peut-être, je verrais là, la différence entre Mitterrand, une israélophilie chez Mitterrand qu'on ne retrouve pas chez le général de Gaulle.
Qui pourtant l'a néanmoins amené à être le premier chef d'État occidental, à réclamer la création d'une patrie pour les Palestiniens, d'un État pour les Palestiniens, devant la Knesset.
Oui, mais ça n'empêche pas, et on retrouvera d'ailleurs la même chose avec Nicolas Sarkozy, qui est un israélophile déclaré, mais qui dit aussi des choses dans son discours, dans son premier discours à la Knesset. Arrêt de la colonisation, droit au double État, avec Jérusalem comme capitale, et qui dit devant une israélophilie déclarée, qui redit les mêmes choses.
Alors vous étiez ministre de l'Environnement de Jacques Chirac. Lorsque Jacques Chirac a fait son discours fondateur, à laquelle vous n'êtes pas tout à fait étrangère, à Johannesburg, lorsqu'il a lancé son fameux cri d'alarme « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs », c'était en 2002. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les choses se sont dégradées depuis? Et quelle est votre perception de l'effort à la fois national français et plus largement international de lutte contre la dégradation climatique?
Un mot d'abord pour cette réunion de Johannesburg qui reste un des grands souvenirs de ma vie parce que dans cette salle qui ressemblait à une salle où avec des tables en bois blanc les salles dans lesquelles on passe son bac, les immenses salles et véritablement les Allemands qui refusaient absolument d'aller dans le sens c'était le gouvernement de Gerhard Schröder avec un ministre de l'environnement qui s'appelait Jürgen Trittin qui refusait parce que il fallait une parole forte de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui parle dans ces réunions internationales et non pas la France. Et je me souviens toujours, Jacques Chirac rentrant dans la salle, agrippant Gerhard Schröder par son costume et lui disait « Tu vas dire à ton ministre qu'il arrête d'emmerder ma ministre ». C'est un souvenir assez génial juste avant qu'il prononce le fameux discours. Je ne peux que constater que, je sais que dans quelques instants on va parler du multilatéralisme bien entendu, je ne peux que constater que l'acception la plus profonde et la plus accomplie, la plus idéaliste aussi du multilatéralisme, qui est de reconnaître une gouvernance internationale qui surplombe les égoïsmes nationaux sur certains sujets. Dieu sait si l'écologie, doit appeler à cette gouvernance internationale et un multilatéralisme qui ne soit pas une simple déclaration d'intention, mais qui aille véritablement vers ce qui est l'accomplissement du multilatéralisme. Je ne peux que constater l'échec complet de cela. Un échec qui, malgré les déclarations tonitruantes de la conférence de Paris, est avancé masqué, et qui maintenant, avec les déclarations de Donald Trump, éclate sur la place publique. Donc on voit que la montée des populismes dans les démocraties vient taper l'exigence écologique. On a essayé de nous vendre l'écologie comme n'étant pas une écologie punitive. Je ne crois pas à l'écologie qui n'est pas punitive. Je ne crois pas à l'écologie qui ne soit pas sacrificielle dans un premier temps. Et ça, on ne l'a pas dit aux gens, on ne l'a pas dit aux citoyens. On ne leur a pas expliqué les enjeux. On leur a beurré les lunettes en essayant de leur faire croire qu'on pourrait faire de l'écologie créatrice d'emplois et de richesses immédiates. Non, c'est pas vrai.
Est-ce qu'il n'y a pas là, en fait, un débat aussi entre les intérêts à court terme et le long terme, le long terme qui est sacrifié, et notamment la faiblesse des démocraties, finalement, qui est d'être sensible au mouvement d'opinion, ce qui est à la fois tout à son honneur, mais en même temps qui représente le péril de sacrifier, d'injurier l'avenir pour préserver le présent.
Au moment où nous faisons cet entretien, Pascal, nous sommes en pleine crise des Gilets jaunes et on en a l'expérience... on en a la démonstration. Et finalement, la question, c'est est-ce qu'un homme d'État doit prendre des mesures populaires qu'il estime néfastes ? J'avais traduit cela de deux façons. Le général de Gaulle aurait-il dû refuser de partir à Londres puisque c'était Pétain qui était acclamé par les Français ? Ou d'une façon plus triviale, les symboles remplissent-ils le frigo ? C'est la question qui est posée. Je vois bien dans le débat qui tourne autour des demandes que tout le monde s'empresse de déclarer comme légitimes des Gilets jaunes. La fameuse question a été posée, faut-il préférer la fin du mois à la fin du monde ou la fin du monde à la fin du mois ? Et c'est bien ça qui est posé à la fois à l'opinion publique et aux responsables politiques. Je ne veux pas d'ailleurs donner de leçons à qui que ce soit. Je bénis tous les jours le fait de ne plus être au gouvernement.
Et dans ce climat, est-ce que la France vous paraît remplir son rôle ou est-ce que, à la fois pour les questions de politique intérieure, en même temps de difficultés internationales, elle a un peu renoncé à jouer un rôle moteur dans ce débat ?
La France n'a pas renoncé à jouer un rôle moteur et... Le « Make your planet great again » en était le témoignage quand Emmanuel Macron l'a prononcé. Mais il est maintenant ligoté. Il est ligoté par les contraintes de la politique intérieure. Et la dégradation de l'image de la France est terrible. Il suffit de se reporter à la presse internationale et de la lire pour se rendre compte à quel point, dans cette affaire des Gilets jaunes, la France est ridiculisée, moquée et mise à terre.
Ça vous paraît durable ou passager, cette dégradation de l'image de la France qui est indéniable, effectivement, le symbole des deux couvertures de The Economist, Macron marchant sur l'eau et maintenant le cauchemar de Macron avec la statue de l'Arc de Triomphe défigurée et cassée.
Il y a une chose que je sais, c'est que les images sont très longues à construire et très rapides à détruire. C'est un principe de fond. Alors, quand vous me dites, Pascal, est-ce que c'est passager ou durable, que ça détruise l'image de la France sur un siècle ? Dieu merci, les terres sont de sable où s'efface le pas des vainqueurs et le pas des vaincus. Mais c'est pas de moi, c'est de Malraux, je précise au passage pour ne pas me parer des oripeaux que je n'eus pas mérité. Mais la reconstruction de l'image de la France, elle va prendre plusieurs années. Et ça, l'influence que peut avoir Macron dans des réunions internationales viendra être tapée. Quand on reçoit des leçons de démocratie de M. Erdogan, on a quand même envie de mettre une bombe à Ankara, quoi.
Alors, justement, l'accord sur le nucléaire iranien a été cassé, enfin rejeté par les États-Unis, comme d'autres accords multilatéraux. Donc, il y a effectivement cette crise du multilatéralisme. Mais plus encore, les Américains nous ont demandé de cesser de commercer avec l'Iran. Et est-ce que ce n'est pas la plus grave atteinte à la souveraineté que notre pays a reçue? Et comment répondre à cela? Parce que finalement, même du temps de la guerre froide, lorsque les États-Unis nous protégeaient, jamais il y a eu une telle atteinte à la souveraineté de la France.
Bien, les États-Unis font jouer leur rôle d'hyperpuissance parce que effectivement, ils ne nous disent pas de pas commercer avec l'Iran. Ils nous disent, nous avons des lois qui vous interdiront de faire des affaires aux États-Unis. C'est bien ça le problème. On n'a absolument pas d'interdiction de commercer avec l'Iran. Simplement, il y a des règles aux États-Unis qui font que les sociétés qui commercent avec l'Iran se voient imposer d'abord des interdictions et si elles ne les observent pas, des pénalités qui représentent des centaines de millions de dollars, parfois, ou du moins des dizaines de millions de dollars. Non, oui, des centaines de millions de dollars. Il y a un certain nombre d'entreprises
de
françaises,
même,
et même de milliards, vous avez raison, Pascal. Et donc, voilà. Et qu'à nos marchés, ce sont les États-Unis pour toutes sortes de produits qui sont fabriqués en France, et pas seulement les camemberts et le vin rouge.
Et donc, est-ce que c'est pas parce que du temps de la guerre froide, il y avait le COCOM, il y avait effectivement des accords pour ne pas commercer avec l'Union soviétique, mais jamais on était arrivé à ce point-là, du fait que des grandes sociétés françaises, par ailleurs, ça remet un peu en cause la notion de champion national, sont obligées de se retirer de l'Iran. Est-ce que ça ne vous paraît pas être certainement l'un des plus graves défis posés aux responsables français en termes de capacité d'action?
C'est un défi majeur, mais... La seule chose qui nous permettrait de nous en tirer, c'est d'avoir une vraie politique européenne. C'est de constituer une Europe forte, solide, qui est le premier marché du monde, et de dire d'une façon raisonnée et unie, dans un multilatéralisme européen, vous nous faites ça, nous vous ferons la même chose. Mais on peut considérer l'incapacité de l'Europe et la façon dont l'Europe et du moins certains pays européens sont à genoux devant les Américains pour regretter que l'Union européenne et que les politiques européennes ne soient pas plus dynamiques. On réalise aussi qu'un certain nombre de solutions de la France ne passent certainement pas par un Frexit dans ce domaine, mais bien par un approfondissement et une véritable volonté politique européenne.
Comment expliquer alors qu'on n'a plus besoin de la protection américaine comme au temps de la guerre froide? Comment expliquer cette dépendance qui se poursuit d'un point de vue stratégique dans certains pays, de nombreux pays européens à l'égard des États-Unis?
Il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas oublier le complexe de culpabilité, il ne faut pas oublier que, à part les Anglais et nous, enfin les Britanniques et nous, ces pays sont dépourvus d'armées, de défense, hein, ou quasiment, soyons pas méchants vis-à-vis d'un certain nombre de pays, mais que dans les puissances militaires, il n'y en a que deux en Europe. Et donc ces pays vivent aussi dans cette histoire de l'affrontement avec l'Union soviétique, avec l'ex-Union soviétique, et que pour ces pays, le parapluie américain était le seul élément. On ne se sort pas extemporanément d'une sorte de culture du risque qui a bercé, qui a construit ces pays. Et les Américains en ont profité très longtemps, ont assuré aussi un certain nombre de services, des bases militaires et d'autres types de services, de l'apport en intelligence, en formation, et que ces pays-là sont effectivement des pays soumis.
Vous avez été ministre des Sports, d'ailleurs en liant les deux ministères de façon assez originale et pertinente, les sports et la santé. Est-ce que vous voyez l'évolution du sport comme un instrument de soft power? Depuis, on a même créé un poste d'ambassadeur pour le sport. Est-ce que vous pensez que la France utilise bien cet atout? Est-ce que le sport devient un instrument de politique étrangère?
Devenir un instrument de politique étrangère au sens hard du terme, non. Un instrument de soft power, d'influence, d'image, à n'en pas douter, oui. Et le récent exemple de la Coupe du Monde l'exprime assez bien. Est-ce que la France utilise ses atouts? Sans doute non. Elle ne les utilise pas parce qu'il y a chez la classe politique un certain mépris, un certain dédain pour le sport, qui ne serait pas considéré comme assez chic et assez valorisant. On a des élites qui sont volontiers méprisantes vis-à-vis du sport, d'autant que s'il est populaire, alors mon Dieu, on cumule les défauts. Et c'est particulièrement vrai pour certaines manifestations sportives. Néanmoins, ce qui caractérise la France, c'est que c'est un pays qui estime que l'État a un rôle à jouer dans le sport. Mais que cette affaire est exprimée d'une façon assez paternaliste. C'est la fameuse image du général de Gaulle dessinée par Fezzan au moment de la catastrophe des JO
de Rome.
Merci. En survêtement, en disant « si je ne fais pas tout moi-même dans ce pays ». Donc, il y a à la fois un élément d'influence politique sur le sport en interne, avec une intervention massive de l'État qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, à travers, par exemple, des directeurs techniques nationaux, à travers un encadrement largement payé par l'État, même s'il essaie de s'en désengager, de façon d'ailleurs assez maladroite, à travers des organisations de grandes manifestations sportives. Mais néanmoins, je pense que les relations des politiques français avec le sport ne sont pas saines.
Vous êtes également donc ministre de la Santé. Quels sont les grands défis mondiaux relatifs au système de santé qui se posent de façon globale?
Le principal défi qui est posé sur la planète, c'est un défi de protection sociale et donc d'accès aux soins. Il ne peut pas y avoir d'accès aux soins sans une protection sociale démocratique, construite honnête, enfin éthique. J'ai moi-même voulu un dialogue approfondi sur ces sujets avec la Chine et avec le ministre Chen Zhu, relation d'autant favorisée qu'il avait fait une partie de ses études à l'hôpital Saint-Louis et qu'on se cachait pour se parler français parce que comme il était assisté toujours de 3 ou 4 commissaires politiques, je me souviens d'un dîner où j'ai copieusement enivré les commissaires politiques. À coup de vin d'Anjou, pour pouvoir discuter tranquillement avec Chen Zhu. Comme quoi, les relations diplomatiques prennent parfois des tournures un peu étranges. Mais ce qui m'a bouleversé dans ces entretiens que j'ai eus avec le ministre chinois, c'est que j'ai vu que pour lui, la protection sociale universelle ne pouvait pas concerner toute la Chine. Il avait clairement structuré son discours sur le fait qu'il y avait 300 à 400 millions de Chinois qui constituaient les élites au sens grandiose du terme, parce que 300 à 400 millions de Chinois, de la population urbaine, de la population qu'il estimait productive, de la population qui était traversée aussi par des exigences démocratiques, et que à ces 400 millions de Chinois, c'était calculé à la louche, il allait leur apporter une protection sociale. Mais qu'il y avait 800 millions de Chinois, les 1000 Chinois de la Chine périphérique, des campagnes, et que ces gens-là ne l'intéressaient pas. Et qu'on voit que cette vision qui est caricaturale en Chine, elle est aussi quelque part reproduite dans beaucoup de pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a une classe, des élites et une classe moyenne, une upper classe moyenne, qui va capter les richesses de la protection sociale à son propre profit. Et cette exigence démocratique et cette exigence d'équité, il est curieux de voir comme elle est ignorée et comme elle n'est pas combattue, y compris par des organisations internationales dont c'est quasiment le métier, ou du moins le fondement. Moi, c'est quelque chose qui me soucie énormément de voir capter les mécanismes de solidarité une fois de plus par les possédants, par ceux qui ont déjà beaucoup.
Parce que ce sont ceux qui peuvent se faire entendre.
Exactement.
Pour terminer l'entretien, vous avez tout au long de votre carrière combattu pour l'égalité homme-femme. Vous avez dû même vous-même vous battre pour vous imposer. Vous racontez ça avec beaucoup d'humour dans un de vos livres. Est-ce que vous pensez que des progrès ont été réalisés et que l'égalité homme-femme est en train de s'imposer, si ce n'est dans la réalité, du moins dans les esprits, et même y compris dans la réalité?
Il en est de cette question, il en est comme de ce dont je viens de parler avec la protection sociale. L'égalité, elle progresse chez les possédants, chez les élites. Je cherche d'ailleurs ce qui pourrait remplacer le mot élite, parce que élite est vraiment disruptif, disons chez...
Ceux qui envoient au chapitre.
Ceux qui envoient au chapitre, les classes moyennes supérieures, et on voit des progrès, et même on tend vers une égalité tout à fait substantielle. Moi, ce que je constate, c'est que l'égalité ne progresse pas chez les plus pauvres, qu'ils soient dans notre société... où au contraire les facteurs de régression sont terribles. Il n'est que de voir la montée des femmes voilées dans des banlieues et la mise sous tutelle d'un certain nombre de femmes, et pas seulement de femmes musulmanes, pas seulement, les couches les plus pauvres de la société. Et il en est de même dans les pays qui ont du mal à se sortir de la misère et de la relégation, parce que le relativisme culturel, c'est la manière d'échapper à l'assignation économique et de trouver une raison de vivre, de retrouver des valeurs qu'on ne trouve pas dans le bien-être marchand. On peut d'ailleurs faire une réflexion philosophique là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de lier à la fois l'identité culturelle et le fait de se sortir de l'assignation à résidence? Je n'ai pas les solutions, mais je suis très pessimiste. Moi,
votre tempérament habituel, pourtant.
Non, ce n'est pas mon tempérament habituel, mais les déclarations, oui, les choses progressent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour les pauvres.
Merci, Roselyne Bachelot. On se termine sur une note, disons, que non pas alarmiste, mais qui est plutôt un cri d'alarme. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, merci, Roselyne Bachelot. Et on termine l'année avec vous. Rendez-vous en 2019 pour de nouveaux podcasts.
Et bonne fête.